Vous avez encore des places ici. L'astrologie, c'est la prise de conscience avant toute chose. Et à la fin de toute chose, c'est la prise de conscience de la charpente, de la structure, de la vertébration, de l'inconscient humain, de l'inconscient individuel et de l'inconscient collectif. Derrière chaque personnalité humaine, derrière tous les marques de notre comportement quotidien, derrière toutes les phases de la vie de notre personne, en tant que personnalité, en tant qu'être conscient, derrière ça, derrière cet individu, il se manifeste ainsi, il y a son inconscient personnel, et derrière cet inconscient personnel, il y a l'inconscient collectif organiquement lié à cet inconscient personnel de l'individu. Nous appelons ça généralement l'âme humaine. L'âme, ce langage, cette définition ici de l'âme en tant qu'inconscient, c'est simplement une entente, c'est une entente de définition. C'est une entente qui est largement due à la magnifique école de psychologie jungienne de Zurich. L'inconscient collectif, c'est si l'on veut ici une sorte de substitut pour l'idée de l'âme générale, l'âme d'une nation, l'âme d'une race, l'âme d'une famille, l'âme du monde. Ça va aussi loin que ça. Si je dis donc l'âme individuelle, je parle de l'inconscient personnel de la personne. Si je parle de l'âme collective, ou l'âme de l'âme, ou le groupe d'âmes comme dans la fleur de lotus chinoise, je parle nécessairement alors, en transposition de cette psychologie, de l'inconscient collectif. Or, l'astrologie, c'est la vertébration de l'inconscient humain. Humain, bien entendu. Tout le reste, toute vertébration et tout effort de saisir la charpente de l'âme du monde ou de l'inconscient de toute chose vivante sera alors plus ou moins de la spéculation. Ça sera sur le plan spéculatif. Nous ne pouvons scientifiquement nous mettre que dans l'étude de la charpente de l'inconscient humain. C'est la vertébration de l'inconscient humain. C'est la charpente de toute la structure et de l'infrastructure de l'âme humaine. C'est ça. Ça nous fait une... Comme je vais le prouver d'abord dans un autre pouvoir, j'espère qu'on va pouvoir le prouver. Ça nous fait, par cette géométrie si merveilleuse qui est celle dont l'origine est la croix, ça fait quelque chose que la psychologie la plus fouillée et moderne n'a pas. L'astrologie va lui donner une ossature. Elle reste quand même dans le domaine de la gélatine, la psychologie moderne. Elle est extraordinaire, elle définit des entités. Eh oui, elle envoie l'expérience en nous, elle distingue cette force en nous de celle-là et cette couche de celle-là, mais ça n'a pas cette précision que donne la connaissance d'une véritable, disons, je n'ose pas dire métallique, une structure métallique, enfin une structure solide et définitive et fondamentale de l'inconscient de l'âme de l'homme. Et naturellement, cela signifie que Saturne a beau panier. Personne ne sera bien intéressé à l'astrologie si son Saturne ne le veut pas. On n'en est pas capable. Ou enfin, que l'individu n'est pas encore à la hauteur de son Saturne. Parce que Saturne, c'est le prince de l'ossification. C'est lui qui nous assure précisément la transformation de notre cartilage et de notre invertébration en une vertébration. Si nous avons des dents, c'est bien grâce à Saturne. Si nous pouvons mordre, et non pas seulement lécher, c'est certainement grâce à Saturne. Et maintenant, j'entre dans le cœur du sujet, la circulation de l'énergie psychique émergente. Et pour commencer, je reviens à quelque chose de fondamental et qu'il faut comprendre pour saisir ce qu'il y a dans ma pensée. Notez bien, c'est mon usage habituel, faut d'ailleurs du temps, c'est surtout de vous lancer des idées à la tête, beaucoup plus que d'en faire complètement le tour. C'est de les semer, de les lancer dans ce terrain merveilleux que j'ai trouvé ici à Paris parmi vous, et de temps en temps en stimuler la, comment dirais-je, la moisson. C'est donc encore une forme de lancement ce soir. Et je parle de cette chose fondamentale qui intéresse surtout naturellement ceux qui sont déjà dans la pensée astrologique, c'est la définition de la maison astrologique. J'ai le sentiment à lire des articles, soit en anglais, soit en français, que la maison astrologique, je n'ai pas parlé de la planète, je parle de la maison, que la maison astrologique, ça n'est pas quelque chose qui est vraiment saisi dans sa moelle. La maison astrologique, bien entendu, c'est la croix. C'est la croix. Mais il n'y a pas d'astrologie comme il n'y a rien sans la croix. Il n'y a rien sans la croix. Le début de l'intelligibilité de n'importe quoi dans l'expérience de l'homme, c'est la croix. Il procède, qu'il le sache ou non, par un processus qui est crucial, les quatre points cardinaux, etc. La croix. Or, donc, les 12 maisons représentent, et voilà, les 12 maisons, elles représentent trois groupes, trois paires d'axes de croix. Donc, c'est 12 maisons, et quand on dit maison et qu'on dit bras de croix, on dit la même chose. Alors, évidemment, je ne parlerai pas du bras de la croix, je parlerai de la maison. Mais ce sera la même chose. Or, la croix, c'est l'arbre de la vie. Ne jamais oublier ça. La croix, tout le symbolisme antique, et à forte raison, à juste raison, c'est l'arbre de la vie. Nous sommes un arbre de vie. Et voilà pourquoi nous n'avons pas une croix, nous sommes. Et nous allons exactement son état actuel, chacun de nous ce soir, ni plus ni moins. Nous sommes cette fois. Notre signature, notre présence, notre densité, notre mobilité, notre mouvement, notre expansion, notre contraction, nos puissances d'accrochage, de riposte, d'attraction, de répétition, de montée, de descente, ce sont des fonctions, des degrés même dont les maisons sont faites. Et non pas les planètes. Et non pas les planètes. Je vais parler ce soir de la circulation de l'énergie psychique. Par conséquent, pour parler de circulation, il faut que savoir où elle circule. Où elle circule. Et elle ne peut circuler que sur une maison, que sur l'axe d'une maison. Elle ne peut pas circuler ailleurs. Elle ne peut pas circuler hors du champ intérieur de la branche même de l'arbre de la vie. Toutes les maisons sont des branches de l'arbre de la vie. Le cœur de ça est au centre, et le cœur de ça et la moelle de ça est dans quelque chose qui est derrière et en profondeur du centre. Et ça, on ne peut pas le mettre dans la géométrie plane, dans le thème, on ne peut pas mettre cette pulsation montante secrète qui se manifeste toujours par le centre de la croix, le centre des maisons. Mais ça, c'est un tout autre chapitre. Je veux rendre ces maisons vivantes ce soir. C'est ça que je rends vivantes. Or, la planète. La planète. Qu'est-ce que c'est la planète? Qu'est-ce que c'est que la planète? Naturellement, une planète sera, comme on dit, maître d'une maison, parce qu'elle est maître du signe qui se trouve sur sa pointe. Très bien. Et alors, elle est maître de cette maison-là. Elle est maître de ce bras de croix-là. Très bien. Et l'homme est même le propriétaire. Elle est absolument identifiée à ce bras droit. Elle ne peut pas fonctionner sans ce bras droit, et ce bras droit ne peut pas fonctionner. Et surtout lui, ne peut pas fonctionner sans lui. La planète, elle, est mobile. Le bras droit ne l'est pas, dans le sens courant du terme. Le bras de la planète est mobile. Elle va avoir des abouchements, elle va avoir des contacts, elle va vivre et participer à la vie des autres planètes. D'accord. Et des autres branches de l'arbre de la vie. D'accord. Mais essentiellement, son point d'attache, c'est ce bras-là, c'est cette maison-là. Or, qu'est-ce que c'est que la planète? D'où vient-elle, la planète? Vient-elle du ciel? Jamais de la vie. Jamais de la vie, la planète vient du ciel. Jamais de la vie. C'est vous qui l'avez fabriquée, la planète. C'est vous qui l'avez engendrée, la planète. Le miracle, c'est vous. Le miracle, c'est la croix. La miracle, c'est cette croix vivante qui est l'arbre de la vie. Prenez la neuvième maison, qui est bien la plus belle maison de tout le zodiaque, de tout le terre. La neuvième, la maison de la religion, la maison des plus hauts espoirs de l'homme, la maison de son devenir, la maison de sa plus haute intellection, la maison de toutes les hautes autorités, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines, sociaux ou religieux ou autres. Mais le bras de la neuvième maison, il travaille, vous le faites travailler, c'est une partie de votre crucifixion, c'est une partie de votre passion, c'est une partie de votre prise de conscience perpétuelle. Sans le bras de croix, il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas donc d'émergence sur le plan de cette existence. Alors, vous travaillez ce bras de croix, et qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites une planète. Car la planète indique le développement du labeur d'Hercule que vous, votre âme, à vous, faites dans cette maison spécifique dont l'énergie produit l'astre. Et inversement, l'astre produit l'énergie et la maison. Il y a là un jeu où il est malaisé, et ce serait l'objet d'une toute autre discussion, de dire qui commence, la maison ou la planète. Mais c'est tout temps, c'est seulement un coupement dans le temps. Donc en bref, je dirais, la maison astrologique, c'est le champ dans lequel l'énergie de la planète, énergie accumulée par les expériences de cette même maison dans le passé, fabriquée par les labeurs de cette maison dans le passé avant cette vie, s'est maintenant accumulée dans une réserve merveilleuse, c'est-à-dire dans une musculature, dans un ensemble de ressources incroyables ce qu'il y a dans une planète. Que ça représente? Parce que c'est incroyable ce qu'il y a dans une maison astrologique, c'est fantastique ce qu'il y a dedans. On ne peut pas la peine d'y penser, voilà tout, mais c'est fantastique ce qu'il y a dedans. Alors prenons la neuvième maison, je reste sur Jupiter, maître normal du Sagittaire, Sagittaire pour la neuvième, homologue à ça. Et dans ce Jupiter, ce sont nos enthousiasmes, c'est aussi notre moyen d'avoir, de nous lancer sur une orbite et d'y rester. Eh bien, si ce Jupiter nous permet ça, c'est parce qu'on y a fameusement travaillé avant cette vie. On y a fameusement travaillé et qu'on est monté déjà pas mal dans la neuvième maison, la maison sacrée du ciel où l'homme rencontre Dieu. Puisque la maison du Saint-Ciel, du trône, de l'autel et de l'autorité suprême, à mesure humaine, à mesure humaine. Or, la planète, on la cherche dans le ciel, au moment de la mission. Et simplement, parce qu'il y a cette chose extraordinaire, c'est que géocentriquement, les positions des planètes géocentriques, que l'on trouve dans l'éphéméride, celles que nous voyons très bien de la Terre, sont par correspondance entre les planètes de la Terre elle-même, parce que ça, ce sont les planètes de l'âme de la mer, enfin liées, je veux dire, avec elles, exactement. Ces planètes-là, par correspondance, nous savons que les nôtres sont au même endroit. Si vous n'acceptez pas si la loi de correspondance n'a aucune intelligibilité pour vous, l'astrologie ne pourra jamais être intelligible pour vous. C'est obligatoire. Il ne s'agit pas ici de la loi de cause à effet, de cause et d'effet. Il s'agit d'une loi de correspondance, le synchronisme. Il y a un synchronisme, ainsi ce soir, nous savons que la Lune est dans la balance. Bon, elle est dans la balance au point de vue de la Lune et au point de vue de la Terre. Elle est dans la balance au point de vue de chacun de nous. En transit, notre Lune est dans la balance, en nous-mêmes. Mais on ne peut pas la voir en nous-mêmes, la charpente, elle n'est pas visible. Nous nous servons de cette structure visible et tangible qui est dans le ciel, et projetant ça, nous savons que pour un moment donné, à une heure donnée, c'est exactement la nôtre. Et ceci se démontre tout le temps dans l'analyse d'un thème radical. Allez vous amuser à étudier les mystères de la loi de correspondance, ça sera de la physique nouvelle, c'est pas tout ce que vous voudrez, mais le fait est qu'il est là. Et nous n'allons pas perdre de temps encore à discuter l'hypothèse de savoir si c'est la loi de correspondance ou si c'est d'autre chose. C'est comme ça. Donc, ceci dit, que la maison est vivante, quel est le champ dans lequel va s'investir le capital planétaire qui est inscrit dans le thème? Autrement dit, Jupiter, capital acquis, à vous, bien vous, mais potentiel seulement. Potentiel jusqu'au moment où la neuvième maison va exister de nouveau, lorsqu'elle va s'inscrire à la naissance. Cette maison s'inscrivant à la naissance, crac, le Jupiter est appelé à en prendre possession, à s'en servir, et à multiplier encore sa puissance primitive. Car la vie, ce n'est pas simplement une addition, la vie c'est une multiplication. On n'a rien compris à vivre. Vivre, c'est multiplier. C'est se multiplier. C'est se multiplier soi-même par soi-même. Donc, Jupiter va se servir de la maison. C'est donc un banquier, un capital bancaire que l'on va mettre dans une maison pour l'investir. Et alors, à la fin de son travail, le rendement de ça va augmenter la puissance du capital. Je dirais, en bref, le fond de ma pensée, dans le thème, la croix que vous avez, c'est les futures planètes que vous aurez après cette incarnation. Et les planètes dans le thème, c'est le résultat total, la somme totale de l'histoire de toutes les croix que vous avez, de tous les arbres de vie, de toutes les choses que vous avez vécues dans la division de l'énergie dans le passé. Rapport étroit, la maison, la planète. La planète, c'est tout. Vous pouvez dire à la planète, eh bien, je veux me servir de toi jusqu'à un tel point, parce que je suis monté dans les vies antérieures jusqu'à tel point. Voilà pour la vie de la maison. C'est ça qui importe, parce que la circulation de l'énergie psychique se fera par les maisons. Et elle se servira précisément du déroulement des forces planétaires qui commandent cette maison et cette combinaison de forces planétaires avec d'autres planètes qui peuvent être en conjonction ou en quadrature ou en sextile ou en trigone, elle va se servir de ça pour combiner la vie de cette maison astrologique. La vie psychique et toute la vie, la physique, qui tant est que le physique peut vraiment se distinguer du psychique et vice versa. Tout va sortir de ce jeu-là sur tous les plans de l'expérience humaine. Sur tous les plans. Pour la maison donnée, qui est vrai pour une maison, est vrai pour tout. Voilà pour cela. Alors maintenant, regardez le texte. J'ai insisté sur le mot émergence. L'énergie psychique émergente. Or, si vous regardez ce thème, c'est comme cette table ronde que nous avons dit, cette table, cet univers. Un thème, c'est comme cette table, ça dispose d'un certain nombre de choses qui sont en même temps disponibles sur cette table. La prise de conscience sera cette table. Elle sera représentée par cette table. Alors naturellement, tout ce qui est sous cette lumière est vu simultanément par vous. Vous devez compter le nombre d'objets qui sont sur cette table, vous ne manquerez aucun objet. Vous aurez le compte complet. C'est très facile de passer d'un objet à l'autre. Et voilà pourquoi le trigone est facile. Parce que le trigone est une énergie qui coule sans changer de plan. Le trigone est une énergie qui coule sans changer de plan, et voilà pourquoi elle ne demande pas d'effort. Oh, vous me direz, mais si, elle change de plan. Et je dirais, mais certainement. Seulement, attention, elle change de sous-plan. Elle ne change pas de véritable plan. Il n'y a qu'une seule énergie qui va changer de plan. Il n'y a qu'une seule énergie qui va faire le monde plat. Le monde plat, qui va monter, 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 qui va faire l'ascenseur. Une seule énergie, et c'est le carré. Le carré, c'est l'énergie qui émerge. C'est l'énergie, c'est par le système de la distribution de l'énergie, sa circulation en montée que va émerger ce qui est dans l'inconscient de l'individu. Le trigone ne fera jamais sortir de l'inconscient de l'homme n'importe quoi. Et la conjonction non plus. C'est tout sur le même plan. C'est tout ce qu'on appelle ici les nombres cardinaux, qui sont tous ensemble sur le même plan au même moment. Non, la quadrature, c'est autre chose. On a voulu faire de la quadrature une chose épouvantable, un aspect maléfique. Mais rien ne se crée sans la quadrature. Rien ne se crée parce que rien n'émerge de l'inconscient. Vous êtes l'étoffe dont vous êtes vraiment fait en vous-même. Vous n'en sauriez rien sans du carré. Évidemment. Évidemment. Si vous n'avez pas le carré du tout, l'étranger des protections du ciel, heureusement, se charge de vos enfants. Alors à ce moment-là, tout d'un coup, vous montez. Mais ce n'est pas cette montée chronique, constante, chronique, le mot, qui représente les quadratures sans le thé. Vous êtes obligé de monter. Vous allez monter. Vous allez constamment être un phénomène. Parce que constamment, au plan du conscient, au plan de votre conscient, au plan de votre mental, au plan de votre nature, va déboucher de l'inconscient personnel et de l'inconscient collectif, de votre âme et de l'âme de votre âme et de l'âme du monde, car derrière, dans la pyramide qui va de plus en plus en profondeur, grâce au monde plat de vos carrés, ça va déboucher dans le plan conscient du tel. Et transformer périodiquement, le mot transformation n'a de sens que par la quadrature. Ça n'a pas de sens autant. Il faut que le carré veut dire qu'une puissance sous-jacente au plan conscient de votre nature, sous-jacente à votre personnalité, va monter au niveau de votre personnalité, va l'enrichir, c'est une eau, l'eau de l'âme, qui va déborder et va se canaliser maintenant dans la distribution d'énergie sur le plan conscient, par la voie alors des trigones, des sextiles et des conjonctions. Mais sans cette énergie-là, vous ne vous renouvelez pas. Et voilà pourquoi les gens qui n'ont aucun carré dans leur tête, et dont le dispositif planétaire, et j'entends même pas d'opposition, parce que les oppositions alors croiront avec le temps des carrés, mais ces gens qui ont des thèmes absolument inoffensifs, où il ne se passe jamais rien, d'inconfortable ou de confortable, ce sont des gens dont l'énergie psychique émergente émerge très très peu. Or, les êtres intéressants sont nécessairement les êtres qui sont des boîtes à surprise. Non pas que nécessairement cette boîte à surprise soit une boîte à contradictions, mais c'est que l'artiste, c'est ça. Le créateur, qu'est-ce que c'est que dire créer dans le sens de langage humain? C'est faire venir dans le plan utilisable, dans le plan tangible et que l'on peut remuer à volonté, dans le temps, dans le plan que tout le monde peut appréhender, c'est faire venir quelque chose qui est ou qui était, mais qui n'était pas là. Et il fallait le faire venir. Or, où était-ce? C'était dans ce monde merveilleux, comme nous appelons tout simplement le monde de l'âme ou le monde de l'inconscient. C'est là. Ça attend son tour. Ça va monter. Et le carré la même. D'où l'énergie psychique émergente dans le thème, c'est l'énergie assurée par le carré. Or, remarquez les maisons astrologiques. Mais chaque maison est en carré avec deux autres. toute maison astrologique, quelle qu'elle soit, prenons par exemple la 9, la voilà la 9, elle est en quadrature avec la 9, elle est en quadrature avec la 6, c'est le cas, il n'y a pas d'astronomie, c'est le cas, là la voilà. Et c'est le cas, hein? Croyez-vous que vous seriez conscient d'un de vos secteurs de votre vie comme la 9e, comme la 5e, comme la 1ère, n'importe laquelle. Croyez-vous que vous en seriez conscient? J'accorde que vous pourriez la vivre sans en être conscient. Vivre et être conscient de ce qu'on vit, c'est pas tout à fait la même chose. Pour être conscient de ce qu'on vit, il faut la quadrature des maisons. Il faut les maisons quadratures. Jamais nous n'aurions développé la puissance intellectuelle, la prise de conscience de l'homme, le désir de l'apprendre, qui marquait déjà que le pouvoir était en nous. Le désir de l'apprendre, il n'y avait pas la quadrature des maisons, pas la quadrature des axes, pas la permanence de la croix de tous les côtés. Donc, qui s'étonne qu'une quadrature soit vraiment serviable, qu'elle ne soit pas une effroyable pinsomme ou un soi-disant maléfique, ne pense pas que toute maison est une quadrature à deux autres, et que le carré joue tout le temps, que les choses de la 9 sont en carré de celles de la 12, et dans un moment, vous allez voir comment ça joue. Le monde plat, c'est la planète qui est en carré avec une autre. Alors les deux forment le monde plat. Et ce qui est dans l'inconscient qui va émerger, ça crée une nouvelle naissance. C'est à la quadrature qui signifie la transformation, qui signifie la mutation, qui signifie la multiplication, que vient la nouvelle naissance perpétuelle et le nouvel enfant, qui est toujours la nouvelle conscience qui sort de l'inconscient, assurée par la loi de la croix. La loi du carré, qui est l'échelle de Jacob, la montée bonne même de toutes les puissances qui sont attachées à l'intérieur de nous-mêmes et à l'insu de notre conscience, à notre personnalité vivante, palpitante sur cette terre. Je dis ça. Dans un instant, je viendrai à la démonstration de ce que je vais montrer comme émergence. Mais avant un instant, voulez-vous qu'on ouvre la fenêtre? La porte ouverte, parce que on a voulu fermer, parce que la porte était ouverte, et puis peut-être maintenant que la porte est fermée, on peut ouvrir.
Oh oui, qu'on l'ouvre.
Mettez-vous très confortablement. Je reviens à cette chose pour prendre conscience, parce qu'il y a ce phénomène si simple qu'est le sommeil. La caractéristique du sommeil, c'est que vous êtes pas conscient que vous êtes. C'est loin qu'on en pourra dire. Et cette fameuse aurore qui représente la première maison ou l'ascendant du thème, c'est toujours essentiellement la charpente et la mécanique de la prise de conscience. On a pris le conscience. C'est un phénomène extraordinaire. On pourrait très bien ne pas avoir conscience. On pourrait très bien vivre comme une marmotte et jamais se réveiller. Il y aurait quand même des énergies en nous qui s'occuperaient de nous faire continuer l'existence sans que nous n'en sachions rien. En tout cas, sans que nous sachions comment l'utiliser. comment nous en servir est aussi, du moment que ça représenterait effort et larmes et frustration, ça représenterait aussi des choix. Bien entendu. Mais c'est la quadrature qui assure la prise de conscience. Car si vous regardez la douleur, mais la douleur, n'est-ce pas la plus magnifique, la plus formidable prise de conscience? À ce moment-là, est-ce que vous n'êtes pas très masculin, puisque vous êtes là, jeté sur la table de la vie, jeté sur le billard de l'existence, par la douleur? À ce moment-là, il s'agit, vous ne pouvez plus dormir, là. Vous ne pouvez plus vous reposer. La douleur vous tient. Eh bien, c'est un carré, la douleur. Qu'elle soit morale ou qu'elle soit physique, c'est la quadrature. Et il n'y a eu de progrès dans le monde que par la souffrance. Et d'ailleurs, le seul fait de prendre conscience, c'est un effort tellement grand. Aujourd'hui, en général, nous le faisons tellement facilement qu'on ne s'en rend pas compte que c'est prodigieux de pouvoir ouvrir les yeux, pouvoir... Et puis ça y est. Comme dans le trigo. Le trigo est un support, c'est un rapport énergétique que nous appellerons simplement vénusien, c'est-à-dire d'amour. Ceci reconnaît le parfait droit que l'autre a d'être soutenu et d'être en parfait, enfin d'être en alliance avec vous. Voilà le trigo. Mais tout ça, c'est essentiellement sur le plan du conscient. Ça n'amène rien de l'inconscient, ça ne change rien essentiellement. C'est charmant, c'est facile. Le trigone est facile, mais il ne crée pas. Toujours pour revenir à l'émergence de l'énergie psychique. Et maintenant, j'en viens à la planète avant de passer à la démonstration de la circulation de l'énergie émergente. Il ne sert à rien, pour moi, je lâcherai l'astrologie demain. Non pas comme étant une non-valeur, oh pas du tout, mais je n'aurai pas mon cœur dedans. Et si je n'ai pas mon cœur dans quelque chose, je n'ai pas la tête non plus. Je suis bâti comme ça. Il y a des gens qui peuvent séparer la vie de leur intelligence et celle de leur cœur. Hélas, moi, je ne peux pas. L'une mène l'autre. Tantôt la tête mène le cœur dit c'était pas temps. Tantôt c'est le cœur qui mène la tête dit c'était pas temps. Mais là où on a son trésor, là on a son cœur, c'est aussi vrai qu'on a sa tête. Et il faut être un passionné pour vraiment tenir le coup en astrologie. Pour vraiment entrer dans cette architecture de l'inconscient de l'homme. Sous la peau, sous l'épiderme de la conscience. Or, ça ne m'intéresserait pas. Purement une question académique. Si ce n'était pas si profondément humain du commencement à la fin. Le thème est essentiellement une opération générale vénusienne, c'est-à-dire une opération par laquelle une synthèse d'éléments apparemment contradictoires, apparemment disposés dans des directions qui ne semblent pas converger. C'est un mouvement général vers une convergence des énergies, vers donc une unification, vers ce principe qui fait que l'union fait la force. Si on cherche l'unité, c'est parce que c'est la force. C'est pas pour la morale, mais c'est la force, et c'est la majesté. Et c'est la majesté de la vie. L'union. Donc, le principe qui assurera ça, c'est le principe Vénus. Donc, le thème est une Vénus en train de se créer. Dans une certaine mesure. Qui dit ça? Dit que toutes les pointes des maisons, que tout le jeu des énergies psychiques qui entrent ou qui sortent de toutes ces maisons, de toutes ces branches de l'arbre de la vie, marche par le principe d'amour, avec l'univers. Avec l'univers. Attraction. Attirance. Ça veut dire participation. Mais regardez donc toute l'existence. De quoi est-elle faite? Elle est faite de ce mystère formidable. Comment est-ce que n'importe quoi peut entrer dans n'importe quoi d'autre et y rester? Comment est-ce que n'importe quoi peut participer à la vie de n'importe quoi d'autre? Et l'astrologie, c'est la science qui nous permet de commencer à comprendre la participation que vous avez vraiment à la vie des autres. Et à la vie des autres dans ce monde et dans tous les mondes, à la fois. Donc, la participation à la vie cosmique, elle est intelligente, bien solidement conçue, bien encadrée. Ça vous la rend vivante, ça vous la rend fertile, ça vous la rend stable. Ça vous donne la bénédiction de l'approbation des lois cosmiques. Une planète qui passe sur une pointe d'une maison, ça n'est pas. On l'appelle planète étalée. Mais qu'est-ce qu'elle, de quoi est-elle faite? Mais elle est faite d'un monde d'amour, d'un monde d'intelligence, d'un monde d'énergie, mais pas d'énergie aveugle, pas d'énergie imbécile. La planète sera faite de tous les éléments sidéraux qui compose tous les éléments physiques et de la nouvelle physique également, atomique. La planète sera faite de tout ça, comme nous sommes faits de tout ça. Nous sommes faits de tous ces éléments, surtout que nous représentons si bien la nouvelle physique. Mais nous sommes bien plus que ça. Et la planète est tout ça, et elle est bien plus que tout ça, et elle est même bien plus que nous. Elle dépasse l'homme en étant plus belle que l'homme. Plus grand dans son idéalité essentielle que l'homme. Car le symbole de Jupiter, en tant que symbole, non pas le vôtre, qui incarne ce symbole dans une certaine mesure, bien entendu, et qui est ça dans une certaine mesure, mais le symbole de Jupiter, c'est une idéalité du soleil. Ce que je veux tâcher de rendre ici, parce que je l'ai vécu ces dernières semaines, et c'est pour ça qu'on est fait le plus, je l'ai revécu de nouveau avec une certaine intensité, c'est précisément qu'une planète qui passe une pointe de maison, c'est le commencement pour vous d'une communion plus enrichissante avec ceux qui vous connaissent, sans que vous sachiez qu'ils vous connaissent, et qui commencent à se manifester à vous sur cette pointe de maison, par la loi de la quadrature des maisons, par la loi de la montagne, par la loi de l'émergence. Que ce sont des êtres qui vous connaissent, c'est l'âme de votre âme, une planète, elle est liée à ça tout le temps. Que c'est une obligation de solidarité humaine, les planètes dans votre thème sont toujours des êtres humains. Par analogie, vous êtes vraiment en rapport de participation authentique et complète qu'avec des êtres humains, visibles ou invisibles, tangibles ou non. Et par surcroît, vous êtes en rapport avec tout ce qu'on appellera les éléments cosmiques. Mais les éléments cosmiques participent à la vie. Ils ont été captés par la vie de l'invisible humain. L'invisible main nous entoure de tous les côtés, il joue sur tous les points de nos maisons. Et nous jouons sur les points de toutes leurs maisons, tour à tour. C'est le mystère de la gradation et de la hiérarchie, de l'absorption de l'être par l'être et de l'existence par l'existence. Première, deuxième, troisième maison astrologique, qu'est-ce que c'est? C'est vous. C'est vous qui absorbez le monde autour de vous. Tout le monde physique autour de vous. Tout le monde atomique autour de vous. Tout ce qui est moins que vous. En tant qu'être humain, en tant qu'être de la dimension, du cause humain, tous les causes intérieures à ça, première, deuxième, troisième maison, premier cadeau, vous absorbez. Ah, le mystère de la vie, n'est pas l'absorption, comme la croissance, c'est la même chose. Et alors, le troisième cadran, qu'est-ce que c'est le troisième cadran? C'est vous qui êtes absorbé. Ah, alors attendez. Le troisième cadran, les planètes qui commencent ça vous absorbent, vous, à votre tour. Elles vous donnent la puissance d'absorber. Vous avez le devoir d'absorber. C'est un devoir et une vraie croix, la première, deuxième et troisième maison. Mais alors la septième, la huitième et la neuvième, c'est vous êtes emportés. Vous êtes emportés sur les chevaux célestes. Vous y êtes préparés à la sept. Vous y entrez sur les vous entrez vraiment en selle. En tout cas, sur l'étrier en 8, mais en 9, vous êtes en 16. Elle vous commande, ces maisons-là. Vous commandez, vous la responsabilité, 1, 2, 3. À eux, les grandes planètes qui sont là à leur tour en train de jouer sur votre thème, qui eux commandent les grandes énergies de l'inconscient collectif, de l'âme du monde et de l'âme de l'humanité tout entière. Alors, par la loi d'analogie, par rapport à votre stade évolutif à vous, elle vous commande, et la 8 et la 9, elle vous mène au ciel. Graduellement, par-ci. Quand on dit, mais à quoi sert la vie? Mais bon, tu dis, mais qu'est-ce que fait que le sens de la vie? C'est que c'est votre 9e maison qui peut sans vous donner une réponse. Elle tient le mystère du sens de la vie. Et elle tient le mystère du sens de la vôtre. Donc, lorsqu'une planète passe la pointe d'une maison astrologique, lorsqu'elle passe, lorsqu'elle elle est liée à cette branche de l'arbre de la vie, elle sera électrique, elle sera magnétique, elle pourra avoir, elle devra avoir tous les éléments que nous trouvons dans la nature. Et beaucoup d'autres éléments que l'homme ne peut pas encore saisir dans la nature. Et que nous avons bien vu avec la nouvelle physique. Tout ça est dans la planète. Mais non, pas vous. Car la planète, c'est une sorte de... Si vous voulez, permettez l'image, c'est une merveilleuse vache qui a très bien broussé dans les pâturages de la vie. Donc elle contient, elle a fait la synthèse de tout. Elle a fait une certaine, pas de tout, mais d'un certain tout. Elle représente une valeur de conique, de pyramide, d'un certain tout de l'existence. Jupiter représente ça, absorbe, prend, rejette, selon une formule qui lui est propre. Saturne fait la même chose, mais selon une autre formule qui lui est propre. Vénus et Mars de même, Uranus, Neptune de même, et Pluton aussi, n'est-ce pas? Chacune dans son sens. Mais chacune, lorsqu'elle vient à la pointe d'une maison, représentera des énergies qu'on appellera simplement corporelles, physiques. Elle vous apportera du sang nouveau dans vos veines. Elle le fera. Elle vous sortira-t-elle? Elle vous apportera des idées extraordinaires. Elle vous les prendra-t-elle? Parce qu'elles font toutes ces choses dans la pyramide et dans le cône vivant et humain et surhumain de la planète. Qui ne comprend pas ça ne devrait pas, à mon avis, s'occuper d'astrologie, il ne fait que bricoler. C'est une merveilleuse communion, une participation toujours plus grande avec tout ce qui vous entoure, depuis l'infinitésimale jusqu'au plus haut profondeur de cette espèce humaine miraculeuse qui est tellement plus bas, tellement plus riche dans l'invisible que dans l'invisible. C'est ce que l'Église a appelé l'Église triomphante. Nous sommes l'Église vive. Il existe l'astrologie. Mais l'astrologie va nous permettre d'escalader, de savoir où sont les échelles qui montent à aller au plan de ce réseau, de cette Église-là. Et maintenant, à la démonstration de l'énergie psychique émergente. Remarquez que lorsque vous allez dans votre 12e maison, vous voilà dans votre douzième maison. Ceux d'entre vous qui font de l'astrologie savent que dans leur 12e maison, c'est là qu'on appelle la maison de la vie intérieure et privée et intime. C'est la vie où nécessairement il faut qu'on soit seul avec soi-même. C'est là où on se parle sans qu'un autre vienne dire que c'est sûr. Sans qu'aucun autre vous entende. C'est donc la maison de la prière et du recueillement et de la retraite. Si vous aimez les grandes cathédrales et leur ombre, ou les grands sapins, les lointaines montagnes, ou la grande mer, c'est parce que cette solitude a le don non de vous écraser, mais de vous enrichir. Il y en a que ça écrase, que là, on appelle une mauvaise douzième maison. Il y a d'autres que ça exalte. C'est une magnifique douzième maison. C'est la maison dite de l'âme. Quand vous allez dans la douzième maison, vous y allez quelquefois de votre gré, par désir et par besoin. Vous voulez vous recueillir dans le fond de l'église et laisser le brouhaha de la rue, les agitations de votre vie personnelle, et tâcher de trouver ce point en vous-même, ce point en vous-même où il y a la paix, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Vous le trouverez qu'en Dieu. C'est la grande maison du Père. Et vous le trouverez là. Or, qu'est-ce qui arrive quand vous êtes là? Qu'est-ce que d'instinct vous cherchez là? Ne cherchez-vous pas là de pouvoir entendre la voix de Dieu? Ne cherchez-vous pas la parole de Dieu dans le fond de votre âme? Croyez-vous que ça vous seriez, qu'elle vous serait intelligible et confortable et aurait un sens? Le fond de votre âme, qui tout à coup, à un certain point de ce fond, tout d'un coup, ne venait pas vous parler d'une voix à sa façon, de la voix du ciel, qui vient vous apprendre quelque chose par cette façon unique et si intime, qui est le rapport par quadrature, par carré, de la neuf à la douze. Voilà l'émergence, cette voix de Dieu, cette voix du ciel, cette voix du Jupiter, Sagittaire du Nord, de la place de la dernière maison. Ne vous l'entendez pas si vous n'allez pas en Dieu. Vous n'entendrez pas. Elle jouera cette énergie. Elle sera tactique, elle sera anonyme, mais elle se révèle lorsque vous vivez la vie de votre âme. Alors la vie de votre âme appelle cette énergie. Cette énergie viendra de l'inconscient de votre neuvième maison, non pas du conscient, parce que le conscient de votre neuvième maison, c'est les grands voyages, si vous voulez. C'est parler philosophie entre amis. Ah ben, c'est très bien, ça vous manipule ça sur la même table. Et le monde plat de la neuvième maison va maintenant monter au plan conscient de votre douzième. Et ça sera la voie. Il me dit, Martin, c'était toujours là la voix de Dieu. C'était toujours là, mais pas du tout, c'est pas là. Elle n'était pas tout le temps sur le même plan. Il y a un horaire pour la voix de Dieu comme il y a un horaire pour tout le reste. C'est une question de plan. La voix de Dieu est montée au plan de votre conscience, lorsque votre conscience s'est axée sur sa douzième maison. Et voilà la quadrature. Et voilà le sens profond. Et ressenti, et je crois unique, sous du carré en anthropologie. Mais je vais encore un pas plus loin. Je prends nécessairement les quadratures, je prends ici la signification des maisons du sable, 12, 3, 6, 9. Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. C'est à dessein que je vais faire cette petite démonstration sur la maison du sable. Pourquoi ? Parce que les maisons du sable sont les maisons mentales. Là, c'est le plan du Mercure, c'est le plan de l'intelligence. Les quatre maisons sont essentiellement des maisons de l'intelligence. Nous pouvons être conscients surtout de notre personne intellectuelle. Pensons, les quatre penseurs dans le thème sont là. Le penseur n'est pas en âme. Il n'est pas en âme. Il n'est pas en sexe. Le penseur. L'acteur, l'agisseur, le travailleur, le criminel, tout ce que vous voulez. Il n'est pas mental, le penseur. Il n'est que sur les bras de la table. Il n'est pas mental. Et c'est la croix de la mutation. On l'appelle mutation. C'est parce que c'est par le mental et que lorsque les forces de l'inconscient sont arrivées à la lumière du conscient, qu'à ce moment-là, il va y avoir particulièrement un dialogue entre le monde extérieur et le monde de votre âme, et que vous allez être vous-même dans le conscient, la charnière de ce dialogue, et le pont intermédiaire entre les deux, et qu'un choix mystérieux va se faire là, qui va déterminer le mouvement en avant. La foi, le âme de votre âme va organiser mieux le développement de votre forme durant l'instruction et le jeu de votre maison du sable. Ce grand dialogue avec l'univers, c'est dans les maisons du sable que nous faisons cela. La prise de conscience mentale ne peut se faire, quand elle est mentale, que sur les mutables. Et par les autres maisons, par dérivation des mutables. Alors, je prends ces quatre, parce que là, on peut le démontrer instantanément. J'ai pris deux mutables, j'ai pris la douce, c'est une maison intellectuelle, c'est une maison mentale si jamais l'enfuit. C'est la maison qui, éclairant l'âme, nous donne à l'intelligence une lumière par la neuvième maison. Je n'aurais jamais vu comme ça. C'est stable. Et quand vous sortez de là et que vous avez la paix, vous êtes sorti de votre deuxième maison, vous rentrez dans la première, vous rentrez dans la vie, dans la bagarre de la vie. Que vous rentrez dans la tête, il est incontestable que vous êtes un peu transformé. Mais vous êtes transformé à des niveaux, à toutes espèces de niveaux. Mais vous êtes aussi transformé intellectuellement. Vous avez des nouveaux mots, vous avez un nouveau bagage intellectuel, vous avez une nouvelle âme mentale. Bien. Voilà pourquoi je prends les mutables, la démonstration se fait là. Or maintenant, je vais aller plus loin. Pour ça, nous finirons cette soirée. Allez-vous trop chaud, pouvons-nous tout être encore ouvrir. Moi, je commence à avoir chaud, alors je demande que les autres là-bas. J'étais assis ici au printemps dernier, lorsque le sable était bronzé, j'avais appris cette fenêtre, je savais qu'on avait chaud. Ah bien, vous n'y arrivez pas? Alors maintenant, voulez-vous me suivre, mes chers amis? Voulez-vous suivre? Ça va venir serré. Maintenant, ça va venir très serré. Circulation de l'énergie psychique émergente dans votre cellule. Comment tout l'inconscient collectif va travailler sur l'individuel? Comment l'inconscient collectif va travailler sur le inconscient individuel et montant de là au conscient individuel? La mathématique de ça, la géométrie de ça, de nouveau, là, la croix. Tout corps. Ces pointes de maison. Et nous prenons maintenant les pointes des mutables seulement. Qui les touche? Ces maisons sont à la fois des maisons portantes. C'est-à-dire qu'elles entrent dans le conscient, la première maison, on en dans les c'est masculin. Et plus un mouvement d'énergie prenant la forme sortant masculine, il en faut une autre énergie féminine sortant vers la quadrature. Alors le féminin va passer au masculin. Et l'animé, avant le mot animé, âme et animé, le féminin en nous, l'âme de nous, ne va animer. Le corps est la volonté, et l'être qui se meut tous les jours, de faire la quadrature. Voilà. Ça descend ici, je dis ça descend et ça passe. Nous faisons des bras droits, nous faisons des lignes, mais comprenez que c'est seulement un chemin. De tout ça, c'est de la vie, cette agro-idée du sens, que ceci n'est pas mince, ni gras, ni ceci, ni ça. C'est tellement un chêne, vous rappelez que la vie passe. C'est un fil pour passer l'électricité dans les rues, le fil téléphonique, mais vous savez que le fil téléphonique, c'est bien plus que ça, puisque c'est toute la voix humaine et ses larmes qui passent. Ça fait la même chose. Voilà le féminin, mais à tout drôle, je descends comme ça. Pour que ceci ait un mouvement de sortie de soi, l'énergie qui va l'animer, c'est un mouvement féminin qui va comme ça, comme ça. Car il y a vraiment d'énergie motrice qui active, qui porte le poids. C'est une question que vous avez dans les locomotives avec des pistons, par exemple. Et ça aimerait tout le long de tout. Les maisons sont à la fois, non, pas à la fois, tour à tour, portant, processus d'entrée. Risque d'entrée, c'est le côté féminin. L'âme descend ici. Masculine, là. Puis, d'un autre côté, il y aura le mouvement d'entrée ici. La quatrième manifeste extérieurement ce qui vient par inspiration de la première. Par inspiration. Or, d'où voulez-vous que nous vienne l'inspiration des bras de nos chaînes lorsque ces bras fonctionnent d'une façon féminine et doivent animer le bras en carré de fila? D'où voulez-vous que nous vienne? Eh bien, de l'éther. Elle vient comme ça de l'espace, elle vient d'un inconscient collectif vague, impondérable, imprécis, massif, que sais-je, avec la vie. Il y a une correspondance précise, il y a une charpente aussi précise dans l'invisible que avec le monde. Comme dans le visible, il y a une collision avec le monde extérieur, il y a bien des chances que c'est là où il y a, on pourrait appeler l'élément de désordre. Mais dans l'intérieur, la charpente est plus solide, et la visualisation dynamique émergente est encore plus certaine et plus précise. Par conséquent, pour que votre deuxième maison soit animée ici, lorsque vous y entrez, que vous vivez toute cette deuxième maison, que vous y êtes, et qu'elle est animée, et qu'elle forme ici, comment dirais-je, une étoile lumineuse qui est vers le deuxième, c'est parce que la deuxième a été. Ainsi, elle est descendue au centre de vous-même. Elle a pris part, elle est venue se mettre ici. Elle a dit, fais avec toi, je suis la parole de Dieu. Je viens du ciel, je te rends ton ciel. Tu le trouves dans ta douzième, bien plus souvent dans ta douzième maison. Tu m'entendras plus souvent, tu te serviras mieux de ce que je te dis, tu comprendras mieux pour ta vie. Oui, mais pour que cette voix vienne, pour qu'elle soit dynamique, pour qu'elle soit riche. Qu'elle soit forte. D'où vient-elle? Alors il y a une autre maison qui va se lier ici, qui va être masculine ici, à cette note, qui va être masculine, car il faut que le masculin supérieur pénètre le féminin humain pour que le masculin humain soit capable de se promouvoir et de se promouvoir. croissance, il n'y en a que par la combinaison du masculin et du féminin. Mais ici, Saint-Esprit, toujours le masculin divin, venant à l'âme humaine, et l'âme humaine ici est représentée par la neuvième maison du changement de la vie. Donc ici, je dis carrément qu'à la pointe de la neuf, il y a un bras de foi, invisible, pour nous intangible, c'est beaucoup plus substantiel, beaucoup plus vivant, beaucoup plus indestructible. C'est la troisième maison de votre ange gardien. Troisième maison de votre ange gardien viendra à votre neuvième. Ce qu'il fait en tant que bon gémeau, son mental, son œil est ouvert, et qu'est-ce qu'il regarde? C'est vous. Parce qu'il regarde toujours la troisième maison, regarde si vous êtes inférieur. Alors vous êtes inférieur à votre ancien. Nécessairement, il vous regarde, et ça représente l'œil de Dieu qui vous regarde en œuf. C'est ça l'œil de Dieu qui vous regarde en œuf. C'est dans le gardien et l'image de ce Dieu. Pourquoi être étonné que ce soit lui qui représente l'œil de Dieu? Que l'œil de votre mère ne représente pas l'œil de Dieu. Alors l'œil de Dieu, neuvième maison, va. Alors l'intelligence gémeaux de votre ange gardien, je rappellerai pour l'instant l'ange gardien, pour en aller très loin dans cette histoire-là, peu importe, c'est une intelligence humaine, analogue à la vôtre, organiquement liée à la vôtre pour l'éternité. Il n'y a pas d'ange gardien s'il n'y a pas l'exaltation de Saturne dans la balance. C'est une structure formelle, une souplesse merveilleuse, c'est la vie elle-même. Il vient à vous, là, ou lui-même quelquefois. Il vient à vous lorsque vous allez là, il sait que vous avez besoin de lui, le rapport se fait, il descend ici dans votre neuf, il descend dans l'âme de votre douze, et votre douze, qui est le masculin de votre neuf, reçoit la vase pleine en elle-même. Voilà comment circule et émerge l'énergie psychique de plan à plan. Ben, j'irai encore un point plus loin, et là je m'arrêterai, parce que peut-être on finirait par magie. Et je veux surtout être compris, et je veux que vous sentiez que je suis très positif, que je suis le moins mystique des penseurs en ce moment, que je suis sauvagement l'ingénieur qui voit le jeu des pistons et des roues, et des dents et des roues dentées, que ça joue, ça broie tout, c'est impeccable, c'est là, il ne faut pas plaisanter avec, c'est comme ça, c'est de la géométrie pure, ceci, qui représente des éléments de vie qui peuvent présenté au raisonnement de l'homme par le langage géométrique. C'est un langage géométrique, l'astrologie, qui représente de plus en plus exactement ce qui se passe sur tous les plans de la vie. Conscient, inconscient surtout. Parce que dans le conscient, si on se met une gaffe, si on se prend, on se cogne très vite, alors ça fait mal, alors on s'arrête d'être bête. Mais quand on est dans la fantaisie, que rien ne vous arrête, la bêtise ne connaît plus de bornes. Donc, vous avez compris que ceci va représenter ma neuvième,